En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent.
La dépression est la deuxième cause d'incapacité liée à une maladie.
Contrairement à une tristesse passagère ou une déprime passagère, la dépression, par essence et dans son critère principal, eh bien, est un trouble qui dure dans le temps.
Thomas Desmith, psychiatre, unité de recherche, INSERM, iBrain.
Souvent de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les symptômes qu'on va rechercher de l'ordre de la tristesse et des symptômes affectifs, eh bien, sont permanents aussi pendant une journée, sont constants dans la journée, ne fluctuent pas avec les événements, typiquement. Et puis, il y a un certain nombre de critères symptomatiques. Alors, on ne va pas forcément tous les citer, mais les plus évidents, les plus importants, c'est en effet une tristesse pathologique qui est encore une fois permanente et constante, associée à une perte de plaisir aussi. Ça, c'est un autre critère très important. Quand on est dans une dépression caractérisée, on a aussi une perte de plaisir typiquement.
Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire !
Et puis, un certain nombre d'autres critères que sont les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, les cognitions dépressives, la tendance à ruminer et à avoir des tendances à se dévaloriser et à perdre confiance en soi. Et ça va jusqu'aux symptômes les plus redoutés, que sont les idées de mort, les idées de suicide et les actes suicidaires.
La dépression peut toucher tout individu au cours de sa vie et indépendamment de sa classe socio-économique.
Il y a ce qu'on appelle des masques de la dépression, c'est-à-dire des formes de dépression qui se manifestent non pas par une tristesse très évidente au premier plan, mais plutôt par des douleurs, des plaintes de mémoire. Alors c'est un sujet que je connais bien, parce que moi je suis plutôt psychiatre de la personne âgée, donc souvent, vous savez, il y a eu certaines cultures chez la personne âgée qui fait que quand on va chez le médecin, on ne se plaint pas de son humeur et de son moral, mais on se plaint de douleur, on se plaint de perte de mémoire. Et typiquement, la plainte première de la dépression de sujet âgé, c'est plutôt une plainte de mémoire, une plainte douloureuse, plutôt qu'une plainte de tristesse à proprement parler. Ce qui est un peu différent chez l'adulte jeune et chez l'adolescent, c'est encore un autre enjeu. Mais la prévalence de la dépression, c'est extrêmement important. On estime à 5 à 10% de la population, en France en particulier, est affectée par cette maladie. Et on sait que la prévalence est d'autant plus importante chez les sujets plus jeunes. Et là, en post-Covid, c'était un phénomène très très évident que les adolescents, que les post-adolescents et que les adultes plus jeunes ont été le plus impactés. Et typiquement, il y a une augmentation très très, très, très nette de la prévalence de la dépression dans cette tranche d'âge.
Environ 30% des patients souffrant de dépression sont résistants aux traitements conventionnels, aux traitements médicamenteux et à la psychothérapie.
La première stigmatisation de la dépression, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'on est dépressif parce que, en effet, on est feignant ou on n'est pas capable de faire face aux événements. Mais c'est une vraie maladie, et une maladie qui a non seulement une dimension psychologique, mais également biologique, et ça, c'est évident. Il y a une dimension biologique qu'on connaît bien. Il y a des changements cérébraux évidents. Quand on est dans un épisode dépressif, on a des connectivités dans le cerveau qui ne se font pas plus aussi bien qu'en temps normal. Et d'ailleurs, on peut montrer que quand le traitement est efficace, on a une réorganisation de ces connexions dans le cerveau qui font qu'on a des capacités pour réfléchir, pour agir, pour se comporter qui sont inopérantes au moment de la dépression, qui ne permettent pas, comme si on se cassait la jambe et qu'on demandait à quelqu'un de courir un 100 mètres avec une jambe cassée. C'est un peu l'exemple que j'ai tendance à prendre. C'est évidemment très très compliqué de courir un 100 mètres quand on s'est fait une fracture tibia-péronée. Et c'est la même chose dans la dépression. Il y a des changements biologiques très forts qu'on ne voit pas, c'est à la différence justement d'une jambe cassée, qu'on ne voit pas quand on ne les cherche pas en tout cas, et qui pourtant sont là et qui empêchent d'agir et de se comporter normalement.
Par ailleurs, le temps de réponse au traitement médicamenteux peut être long et parfois décourageante.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Les thématiques de recherche, une des thématiques principales, disons, en psychiatrie, dans la dépression, c'est comment est-ce qu'on va essayer de dépasser les antidépresseurs conventionnels, dont on sait qu'ils ont une certaine efficacité, mais relativement limitée néanmoins, et surtout de par leur délai d'action. On sait qu'il faut typiquement un bon mois, sinon deux, avant de pouvoir juger de l'efficacité d'un antidépresseur classique. Alors que les recherche actuelle tente justement à essayer de découvrir des antidépresseurs d'action rapide. Alors, on a entendu parler de la kétamine, peut-être, qui a maintenant un produit qui a l'autorisation de mise sur le marché sous certaines formes particulières et qu'on utilise dans certains cas dans la dépression résistante. Nos travaux, ainsi que d'autres, tendent à montrer que eh bien, le protoxyde d'azote pourrait aussi faire partie de ces antidépresseurs d'action rapide.
Gueule de chercheur.
À Tours, le CHRU et l'unité mixte de recherche INSERM iBrain travaillent, entre autres, à mieux comprendre les mécanismes de la dépression et à trouver de nouvelles approches thérapeutiques.
On a un centre expert dans la dépression résistante qui a été labellisé, en effet, il y a quelques années maintenant.
Thomas Desmith, psychiatre, unité de recherche INSERM iBrain.
Rattaché au CHU, qui s'inscrit dans un réseau de centres experts nationaux, en effet. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que parmi les thématiques d'excellence du CHU, dans la recherche, il y a trois thématiques. Il y a une thématique autour de l'infectiologie, des anticorps monoclonaux et de la neuropsychiatrie en général, qui inclut une thématique forte autour de l'autisme, mais aussi autour de troubles de l'humeur. Donc finalement, un des axes d'excellence du CHU de la recherche, c'est bien la neuropsychiatrie, dans lequel il y a une dimension neurologique, hein, comme la sclérose latérale amyotrophique, comme certaines recherches dans le domaine de la métabolomique, de l'ophtalmologie, de l'ORL. Bon. Et puis cette dimension psychiatrique qui regroupe principalement, mais pas uniquement, l'autisme et la dépression, et donc cette lisibilité au niveau national, voire international, je crois. Et d'ailleurs, j'ai la chance de porter moi-même cet axe de recherche de neuropsychiatrie du CHU.
Gueule de chercheur. Gueule de chercheur.
Dans un communiqué de presse en date du 1er septembre 2023, l'INSERM présente l'étude Protobrain, le MEOPA, ou gaz hilarant, comme une piste thérapeutique sérieuse dans le traitement de la dépression résistante. Évidemment, on ne parle pas ici du gaz de siphon de cuisine consommé dans un but récréatif par des adolescents, avec souvent des conséquences neurologiques dramatiques, mais bien d'un protocole de recherche, dont les premiers résultats ont été publiés le 17 août 2023, dans la très sérieuse revue internationale Molecular Psychiatry.
On est ici dans une utilisation du protoxyde d'azote, qui est le protoxyde d'azote médical, hein, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on connaît bien en utilisation courante en médecine, puisqu'on l'utilise depuis probablement plus de 100 ans maintenant, en tout cas on le connaît depuis plus de 100 ans, et probablement on l'utilise de façon très couramment, très, très, très courante depuis au moins une cinquantaine d'années, dans l'indication des soins douloureux. Par exemple, les soins dentaires, par exemple, les sutures chez les enfants, par exemple, le travail chez la femme enceinte, par exemple, les ponctions lombaires chez la personne plus âgée, par exemple. Donc, c'est un produit qu'on connaît bien et ça, la façon dont on l'utilise à l'hôpital, par exemple, c'est sous un format particulier qui est un mélange gazeux de 50% de protoxyde d'azote et 50% d'oxygène. Ce qu'on appelle le MEOPA, le mélange équimolaire, oxygène, protoxyde d'azote. Et finalement, on est quand même très loin de, et je propose de le préciser ici, de l'utilisation qu'on peut faire parfois récréative de ce produit-là, qui est du protoxyde d'azote, dans ce cas-là, dans l'utilisation récréative, qui est constitué à 100% de protoxyde d'azote.
Sans
oxygène. C'est vraiment du protoxyde d'azote pur, et c'est un gaz. Il faut quand même qu'on rappelle que c'est un gaz toxique à cette concentration-là. À la fois, il y a un risque de pulmonaire important, hein, qui perturbe l'échange d'oxygène, et par ailleurs, qui peut aussi avoir des conséquences sur le métabolisme, le métabolisme de la vitamine B12 en l'occurrence, et qui peut avoir des conséquences neurologiques parfois gravissimes, principalement dans des utilisations régulières ou répétées, mais c'est un produit évidemment potentiellement toxique. Et finalement, le produit que nous on utilise dans le traitement de la dépression est un produit, comme je viens de vous le dire, plutôt médical, avec une composition plus sécurisante ou sécurisée que le protoxyde d'azote pur.
Mais avant d'aboutir à ces résultats, il y a la mise en œuvre pratique du protocole de recherche. Nos deux chercheurs nous donnent un aperçu du travail réalisé en amont de cette publication, c'est-à-dire tout ce travail que vous ne verrez pas.
Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude ?
Thomas Desmith, psychiatre, unité de recherche, INSERM, iBrain.
On a soumis des patients dépressifs résistants, des jeunes femmes en l'occurrence, à une heure de ce gaz hilarant, de ce méopa. Et on a réalisé une IRM cérébrale avant-après, et également des mesures en ultrason avant-après et pendant la diffusion du gaz, qui a donc duré une heure, pour la plupart des patients, pour ceux qui l'ont pas trop mal toléré. Parce qu'il faut rappeler quand même que la tolérance est pas... bon, peut parfois être problématique, surtout en termes de nausées et de vomissements. On a quand même eu un nombre de nausées. On était très surpris de voir quand même des jeunes femmes qui n'ont pas toujours très bien toléré ce produit, surtout en termes de nausées et de vomissements. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que quand on a suivi ces personnes pendant une semaine, on s'est rendu compte que à peu près la moitié d'entre elles avaient un effet bénéfique extrêmement évident. Sur le plan clinique, typiquement, elles sortaient de leur dépression en quelques jours. Et ce qu'on a mesuré, notre objectif, c'était de savoir ce qui se passait dans le cerveau de ces personnes qui s'amélioraient. On a observé deux choses. On a observé d'abord en IRM que finalement, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on avait observé une réorganisation de la connexion, ce qu'on appelle la connectivité dans le cerveau, des neurones dans le cerveau, de sorte que quand on a regardé une partie du cerveau qui nous intéresse, en l'occurrence le cortex cingulaire antérieur dans un certain nombre de connexions cérébrales, eh bien, avait tendance à diminuer sa connectivité avec le reste du cerveau, en tout cas une certaine partie du cerveau. Et ça, on sait assez bien que c'est ce qu'on observe dans d'autres antidépresseurs comme la kétamine, surtout lorsqu'il y a un effet à diminuer la tendance à ruminer. Vous savez, c'est un peu le problème, c'est un des problèmes de la dépression, c'est que le cerveau tourne en boucle, souvent sur des choses très, très négatives. Et de fait, lorsque l'on finalement expose la personne à une heure de méopa, eh bien, c'est comme si on déconnectait finalement cette partie du cerveau pour faire en sorte que les ruminations arrêtent de tourner en boucle. Et c'est ce que nos patients nous disaient. Donc ça, c'est la première chose qu'on a observée. Et la deuxième chose, c'est que avec les ultrasons, on a observé d'abord, de façon très nette pour tous les participants, dès les premières minutes d'exposition, une augmentation de la pulsatilité qui faisait x3, x4 dans les amplitudes de battement. Quoi. Donc avec le protoxyde d'azote, tout de suite, votre cerveau se met à battre de façon plus importante. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les patients qui avaient la plus grande augmentation, en tout cas l'augmentation la plus continue, sont ceux qui allaient le mieux répondre aux antidépresseurs. Au protoxyde d'azote. L'hypothèse que l'on a fait ici, c'est que probablement l'effet vasodilatateur du protoxyde d'azote qu'on connaît assez bien en fait, participe à l'effet antidépresseur, peut-être en distendant la barrière hémato-encéphalique et donc ça devient un peu technique, hein, pardon, mais en favorisant le passage justement des molécules du protoxyde d'azote directement dans les cibles cérébrales qui nous intéressent.
D'ailleurs, je me tourne vers vous, Paul Armand Dujardin. Alors, sur une étude comme ça, là, sur ces jeunes femmes, par exemple, pour faire ces mesures, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous les avez équipées, appareillées, je ne sais pas quel est le terme le plus exact, justement, pour faire ces mesures ?
C'est ce que j'explique aux participants quand ils viennent.
Paul Armand Dujardin, ingénieur d'études au CICIT, ultrasons et radiopharmaceutique.
L'échographie, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sonde reliée à un appareil. La sonde ne tient pas toute seule. Il faut quand même la tenir et il faut essayer de faire en sorte que la sonde bouge le moins possible durant toute la durée d'exposition. Pour ça, on a équipé les participants avec un petit casque. Alors au départ, on avait un casque de soudure qu'on a un peu retravaillé, mais on s'est un peu mieux équipé quand même. On a maintenant des casques de réalité virtuelle. Où on a enlevé la réalité virtuelle parce que ça ne sert à rien, on veut juste un support pour la sonde. Donc un casque avec un petit bras articulé qui va tenir la sonde. Alors pourquoi on fait ça ? Pour deux raisons. Alors, la première, c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaie d'imager le cerveau toujours à peu près au même endroit. La deuxième, c'est que si je tire la sonde à bout de bras pendant toute une heure, mon épaule elle va commencer à dire qu'elle a un peu mal. Quoi. Donc voilà, les deux raisons, c'est pour observer toujours au même endroit et puis éviter les troubles musculo-squelettiques de l'opérateur qui tire la sonde. Donc le patient est équipé d'un casque de réalité virtuelle sur lequel on va fixer la sonde d'échographie, on lui met le masque pour l'administration du protoxyde d'azote, enfin du méopa pour être plus précis. On lui met le masque en dessous, le casque vient plaquer Le casque virtuel va plaquer le masque d'administration du MEOPA et finalement tout tient à peu près tout seul, quoi. Donc finalement c'est pas très compliqué, c'est juste un casque qu'on met sur la tête qui tient tout seul, qui tient la sonde d'échographie, qui fait les acquisitions au moment où moi je lui demande voilà, émet les ondes et arrête d'émettre des ondes. Finalement ça consiste uniquement en ça, quoi. Donc on demande aux participants d'être parfaitement, enfin d'être le plus relaxé possible. Elles viennent souvent avec un petit peu de stress parce que voilà, c'est quand même une étude clinique, c'est la première fois qu'elles vont avoir du protoxyde d'azote, donc c'est pas rien, mais on essaie de les détendre un petit peu, de les mettre dans les bonnes conditions. On leur demande aussi, ça fait écho à ce que disait Thomas, de venir à jeun maintenant, parce que pour éviter les nausées. C'est vrai qu'on a eu quelques petites mauvaises surprises, dirons-nous. Donc maintenant, elles viennent à jeun le matin. Donc, et tout se passe bien finalement. C'est donc juste un casque, un masque d'administration du protoxyde d'azote et finalement ça suffit, quoi. Et le petit appareillage, c'est pas un échographe d'un service qu'on prend. On prend un petit échographe portable qui enregistre des données en mode recherche, quoi, dirons-nous. C'est-à-dire que les données brutes de l'échographie et pas la simple image, quoi.
Et ça dure combien alors de temps ce protocole?
Alors on fait des acquisitions avant, donc moi je demande à Thomas de me laisser 10-15 minutes avant l'administration, le temps de réexpliquer un petit peu aux participants aussi ce qu'on va faire, le temps de faire quelques acquisitions qui durent, je fais deux acquisitions de 2 minutes chacune. Ensuite, une médecin et une infirmière viennent dans la chambre pour gérer l'administration du MEOPA. L'infirmière administre le MEOPA et la médecin est là pour contrôler si tout va bien pendant toute la durée d'administration qui dure une heure. Donc pendant une heure, moi je vais faire des acquisitions au moins les 12 premières minutes et ensuite toutes les 10 minutes. Comme disait Thomas, c'est surtout pendant les premières minutes où l'augmentation de pulsatilité est la plus importante. Voilà. Mais on continue d'enregistrer toutes les 10 minutes jusqu'à la fin de l'administration d'une heure. Et puis ensuite, on met les patients sous oxygène aussi. 10 minutes d'oxygène médical, histoire de rétablir le cerveau bien comme il faut, d'oxygéner le cerveau bien comme il faut après cette dose de MEOPA. Et puis, je continue à faire quelques acquisitions derrière. Voilà, deux acquisitions de 2 minutes, encore une fois. Mais c'est surtout, on a vraiment observé l'évolution pendant l'administration et pas forcément pendant les mesures après, quoi.
L'étude ProtoBrain se poursuit à Tours, à Rennes et à Nantes.
L'étude ProtoBrain qu'on appelle pilote, qui était une étude monocentrique, donc menée uniquement au CHU de Tours, pour lequel il y a des jeunes femmes dépressives et un groupe de témoins, si je me souviens bien. Cette étude-là, pilote, est terminée. Nous sommes en train de rédiger l'article correspondant. Et puis, en ce moment, on mène une étude multicentrique avec nos confrères de Nantes et de Rennes, pour avoir le plus de participants possible. Chaque participant va faire ses propres acquisitions et on va avoir un large panel de personnes qui vont pouvoir participer à l'étude et avoir beaucoup de résultats à exploiter.
C'est-à-dire que là, on a été surpris des effets, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à avoir des effets aussi nets chez certains patients. En tout cas, tout le monde ne répond pas, hein. Il y a quand même des personnes qui sont résistantes, hein, mais quand on répond, souvent on répond bien et vite et de façon relativement prolongée. Et donc, on a essayé de développer davantage cette thématique. La première étude dont Paul Armand parlait à l'instant, en effet, celle qui est terminée, celle dont on espère qu'elle sera publiée très prochainement, c'est une étude de physiopathologie. On regardait ce qui se passait dans le cerveau. Les autres qui arrivent, et je profite pour faire un peu de promotion, si vous me permettez, on en a une en ce moment, où on cherche des participants, qui, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité, dans un essai, cette fois-ci, assez robuste, vous savez, un essai randomisé contre placebo. C'est-à-dire que la moitié des personnes auront en effet une heure de MEOPA, l'autre moitié aura une heure d'air médical. Et typiquement, personne ne sait, en dehors de l'infirmière qui utilise le produit.
Et la médecin.
Et le médecin qui surveille, hein, pas le médecin qui évalue. Personne ne sait dans quel groupe les patients se trouvent. Et en particulier, pas le patient lui-même, évidemment. Et ça, c'est une étude donc, d'efficacité. On cherche à montrer que le Méopa est en effet efficace dans comme antidépresseur, d'action rapide, dans une population particulière qui est la population des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans, là aussi, il y a tout un rationnel, puisqu'il y a une participation des processus vasculaires dans la dépression, en particulier de la personne âgée. Et ce sont des facteurs de résistance aux antidépresseurs classiques. Plus vous avez des lésions vasculaires étendues liées à l'âge en particulier, plus vous avez un risque d'être résistant aux antidépresseurs conventionnels. Et donc, le Méopa pourrait avoir un effet, de par l'effet vasodilatateur, pourrait finalement faire fi de la résistance liée aux facteurs cérébrovasculaires. Donc, de fait, on pense que ça peut être un outil particulièrement adapté dans la dépression de la personne âgée, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. Nous avons au Centre d'investigation clinique au CHU de Bretonneau un protocole en cours. On a inclus, je crois, une vingtaine de participants à peine pour le moment. On voudrait que 60 personnes au total y participent, incluant Rennes et Nantes. Donc, le protocole est toujours ouvert. On pourra peut-être vous mettre les coordonnées du Centre d'investigation clinique à disposition.
Voilà, à bons entendeurs. Alors, peut-être qu'on peut préciser, si on souhaite participer à ce genre d'études, donc c'est évidemment de son plein gré, de façon tout à fait volontaire, et est-ce que c'est gratuit ?
Oui, c'est non seulement gratuit, et tout est pris en charge, c'est-à-dire que les transports sont pris en charge, que toute la procédure est prise en charge. Il y a l'IRM dont vous bénéficiez, évidemment, est pris en charge, donc évidemment, on ne paye absolument rien, et évidemment, tous les frais engendrés sont remboursés, bien sûr.
Voilà, bon, j'insiste peut-être lourdement, mais c'est parce que certaines études sont rémunérées, donc là, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Alors, pour être honnête, on a voulu le faire, mais on a été retoqué par le comité d'éthique, pour tout vous dire, qui nous a dit non, on ne peut pas autoriser, j'étais surpris aussi, dans la mesure où on n'est pas dans une étude avec des volontaires sains, mais avec des patients, et qu'il y a un bénéfice potentiel, on n'a pas eu l'autorisation de rémunérer les participants. Donc, d'indemniser les participants. Donc, tout est pris en charge et remboursé, et c'est gratuit, mais il n'y a pas d'indemnisation propre à l'étude au-delà de ça.
Comme vous le disiez, la participation est parfaitement volontaire, complètement encadrée. C'est-à-dire qu'il y a une signature d'un consentement et la personne est libre à tout instant, si elle ne le sent plus au dernier moment, d'annuler son consentement. Donc n'hésitez pas vraiment à venir vous informer.
Et puis au-delà de ça, on a un centre vraiment extrêmement... Alors il y a le centre d'investigation technologique où travaille Paul Armand, mais il y a aussi le centre d'investigation clinique qui est un autre module rattaché au CHU et à l'INSERM, qui est extrêmement confortable pour tout le monde, hein, mais vraiment hein, pour les chercheurs quand on doit mener une étude, parce que c'est extrêmement rigoureux, c'est on a une disposition, un plateau technique et du personnel extrêmement compétent et très agréable. Et puis pour les patients eux-mêmes, je crois, enfin pour les participants eux-mêmes, ils sont ravis la plupart du temps, même très, je crois, systématiquement, de venir participer aux études au CHU. Donc vous êtes les bienvenus.
Et si les résultats sont probants, on peut espérer une utilisation du gaz hilarant, du Méopa, dans les soins courants d'ici 4 ou 5 ans, sous réserve de validation par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Comment vous souhaitez terminer cette émission ?
Si vous connaissez du monde qui veut participer à l'étude, nous on prend. Hein. C'est, on est toujours en recherche de personnes. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à toutes ces techniques, à toute cette recherche qui est faite dans le domaine de la santé, qui sont passionnantes et qui me passionnent, moi, depuis une douzaine d'années déjà. Quoi. Et je suis très heureux d'avoir travaillé avec Thomas là-dessus.
C'est réciproque. Pardon, c'est moi qui ai fait le dernier mot de la fin, mais c'était juste pour dire que c'était réciproque. Et si je puis me permettre quand même, puisque malheureusement, Paul Armand a choisi, je ne sais pas si tu l'as mentionné jusque-là, mais a choisi de ne pas continuer son contrat avec nous. Mais en tout cas, j'en profite pour te remercier chaleureusement et publiquement de toutes ces années pour avoir travaillé avec toi et notamment sur cette thématique de la pulsatilité cérébrale. Merci Paul Armand.
Merci.
Merci à Paul Armand Dujardin, ingénieur d'études au CICIT, ultrasons et radiopharmaceutiques, et à Thomas Desmith, psychiatre, unité de recherche INSERM iBrain.
En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent.